Quatrième partie, livre 9, Ivan. Depuis 2 mois que Mitya était arrêté, Alyosha avait souvent visité Grushenka. Elle était tombée gravement malade 3 jours après l'arrestation. Elle n'avait pas quitté le lit pendant 5 semaines. Elle était même restée pendant 8 jours sans connaissance. Elle avait beaucoup changé, beaucoup maigri et pâli, mais elle n'en était devenue que plus sympathique au jugement d'Alyosha. Elle avait dans les yeux quelque chose de réfléchi, de résolu. Entre ses sourcils, s'était creusée une petite ride verticale qui donnait à son visage charmant une expression concentrée, presque sévère. Plus de traces de la frivolité de naguère. Pourtant, elle n'avait pas perdu cette joie de la jeunesse. Seulement la douceur avait succédé à l'orgueil, quoique ses yeux eussent parfois un éclair de haine quand elle pensait à Katerina Ivanovna, qu'elle n'avait pas oublié même pendant son délire. Grushenka était extrêmement jalouse de Katia, bien que celle-ci, alors pourtant que cela lui était permis, n'eût pas une seule fois visité le prisonnier. Grushenka n'avait confiance qu'en Alyosha, mais il ne savait quel conseil lui donner. Un jour, Grushenka revenait de la prison, où aussitôt rétablie, elle avait obtenu ses entrées auprès du prisonnier, et Alyosha, qu'elle attendait avec plus d'impatience que de coutume, se présenta chez elle. Il y avait sur la table des cartes à jouer, et sur le divan recouvert de cuir, s'était dressé une sorte de lit où se tenait à demi couché Maximov en robe de chambre et en bonnet de coton. Le pomieltchik était malade. Il habitait chez Grushenka depuis qu'il l'avait accompagné à son retour de Moskroïe. Ému de compassion pour le dénuement du bouffon, elle lui avait offert le vivre et le couvert. Sauf Maximov et Alyosha, elle ne voyait personne. Le vieux marchand Samsonov était mort 8 jours après l'arrestation de Mitya. « Ah, te voilà enfin !» s'écria-t-elle en jetant les cartes et en venant au devant d'Alyosha. « Et Maximushka, qui m'effrayait en me disant que tu ne viendrais plus. Ah, que j'ai besoin de toi, assieds-toi. Veux-tu du café ? Volontiers, j'ai faim. » « Fenia, Fenia, du café !»« Il y a longtemps qu'il attend le café. »« Et des petits gâteaux, Fenia, des petits gâteaux chauds. »« Sais-tu, Alyosha, j'ai encore eu une histoire aujourd'hui avec ces gâteaux. »« Je lui en ai porté, et croirais-tu ?»« Il les a jetés par terre et les a piétinés. »« C'est bien, lui ai-je dit, je vais les laisser aux gardes. »« Si tu n'en veux pas, nourris-toi de ta méchanceté. » Et je suis parti là-dessus. Eh oui, nous nous sommes encore querellés. Chaque fois que nous nous voyons, nous nous querellons. Grushenka parlait avec animation. À propos de quoi aujourd'hui ? Oh, imagine-toi qu'il est jaloux de mon ancien. Mais pourquoi lui donnes-tu de l'argent ? Me dit-il, tu l'entretiens. Il est jaloux. C'est qu'il t'aime, puis il a la fièvre. « Oh, je pense bien qu'il a la fièvre. C'est demain le jugement. J'étais justement venu pour lui donner des forces, car il est terrible de penser à ce qui peut arriver demain. Mais tu dis qu'il a la fièvre. Et moi, donc ? Et il parle des Polonais. Mais quel imbécile ! Et de Maximushka, est-il jaloux ? Mon épouse était jalouse de moi, dit Maximov. « De toi, dit Grushenka en riant malgré elle. Et à propos de quoi pouvait-elle être jalouse de toi ? Mais à cause des bonnes ? Tais-toi, Maximushka, ce n'est pas le moment de rire. Et ne regarde pas trop les gâteaux, ou bien je n'en donnerai pas, ça te ferait mal. Et dire qu'il me faut encore soigner celui-là. On dirait que ma maison est à l'hôpital. » « Je ne vaux pas vos bienfaits, je suis de si mince mérite, » dit Maximov en pleurnichant. « Vous feriez mieux de prodiguer vos bontés à ceux qui en ont plus besoin que moi. »« Oh, Maximouchka, tout ça en ont besoin. Et comment savoir qui en a le plus besoin? Et sais-tu, Alyosha, le Polonais est aussi tombé malade aujourd'hui. Oh, je vais lui envoyer des gâteaux, exprès, puisque Mitya me reproche de lui en avoir envoyé quand ce n'était pas vrai. Tiens, voilà Fenia avec une lettre. C'est cela. Ah, c'est le chéri Polonais. Il demande encore de l'argent. En effet, le pape Momusialovitch, depuis quelque temps, écrivait à Grushenska de longues lettres, accompagnées de billets à ordre signés de lui et du pan Wróblewski, par lesquels billets il s'engageait à rendre à Grushenska les roubles qu'elle lui avait prêtés. Le pan Momusialovitch avait commencé par lui demander 2 000 roubles, puis après une série de lettres restées sans réponse, il avait fini par demander 1 seul rouble, dont le prêt serait garanti par la signature des 2 Polonais. Grushenska finit par aller le voir, et le trouva dans une misère noire, lui donna 10 roubles. Depuis, il ne cessait de la bombarder de lettres de demande. « Mais j'ai eu la sottise de compter cela à Mitya, » continua Grushenska. « Imagine-toi, lui dis-je, que mon Polonais s'est mis à me jouer sur sa guitare les anciennes chansons pendant que je me laisserais attendrir. Alors Mitya s'est mis à m'injurier. » Puisque c'est ainsi, je vais envoyer des gâteaux au pan. Fenia, donne à la petite fille qu'il a envoyé 3 roubles et 10 gâteaux. Et toi, Alyosha, raconte cela à Mitya. Jamais, dit Alyosha. Il sourit. Tu penses donc que cela lui ferait de la peine? Va, il fait semblant d'être jaloux, au fond. Ça lui est bien égal, dit avec amertume Grushenska. Comment en semblant? Innocent, va, innocent, malgré toute ton intelligence. Je ne m'offense pas qu'il soit jaloux de moi. Je suis même ainsi faite que sa jalousie m'est nécessaire pour que je sois heureuse. Moi-même, j'ai le cœur jaloux. Ce qui me fâche, c'est qu'il ne m'aime pas, c'est qu'il feint d'être jaloux. Suis-je aveugle? Il parle de Katia. Il dit qu'elle a fait venir pour lui un célèbre médecin de Moscou et un des premiers avocats de Pétersbourg. Il l'aime puisqu'il en parle tant. C'est parce qu'il est coupable contre moi qu'il m'accuse. Et Grushenska s'interrompit et fondit en pleurs. Il n'aime pas Katerina Ivanovna, dit avec fermeté Alyosha. Moi, j'en aurai le cœur net, dit-elle d'une voix menaçante. Son visage s'altéra. « Assez de sottises, » reprit-elle. « Ce n'est pas pour cela que je t'ai appelé Alyosha. Qu'arrivera-t-il demain? Voilà ce qui me torture. Il me semble que je sois seule à souffrir. Y penses-tu toi-même? C'est demain le jugement. Dis-moi, mais c'est le domestique qui a tué. Et l'on condamnera Mitya, et personne ne le défendra. Je crois même qu'on n'a pas inquiété Smeriakov, et... Non, on l'a rigoureusement interrogé, et tous sont tombés d'accord que ce n'est pas lui. Il ne s'est pas remis des suites de sa crise, il est très malade, extrêmement malade. Seigneur, tu devrais aller chez l'avocat et lui raconter l'affaire en particulier. Il paraît qu'on lui donne 3 000 roubles. Oui, Ivan, Katerina Ivanovna et moi, nous sommes réunis pour faire la somme. Elle a fait venir elle seule le médecin. Elle lui donne 2 000 roubles. L'avocat Pietyukovitch aurait exigé davantage, mais comme l'affaire a eu du retentissement dans toute la Russie, car tous les journaux en parlent. Il plaidera peut-être plutôt pour la gloire que pour le profit, oh, je l'ai vu hier. Eh bien, que lui as-tu dit? Bon, il m'a écouté sans rien dire. Il a déjà son opinion faite. Pourtant, il m'a promis de prendre en considération mes paroles. Comment en considération? Allez, vaurien, ils veulent le perdre. Et le docteur, pourquoi l'a-t-elle fait venir? Comme expert, on voudrait faire passer Mitya pour fou, mais il n'y consent pas. Mais ce serait pourtant vrai s'il avait tué. Il était fou à cause de moi, hélas, misérable que je suis. Mais il n'a pas tué, pourtant, il n'a pas tué. Et tout le monde crie que c'est lui. Oui, tous les témoins sont à charge. Et Grigory, ce Grigory qui prétend que la porte était ouverte, je suis allé le voir, il m'a injurié. Sa déposition est peut-être la plus grave. Mais quant à la folie, elle est réelle. Il est fou à cette heure encore, je voulais depuis longtemps te le dire. Alyosha, qu'en penses-tu? Que dit-il maintenant? Il me parle d'un petiot. C'est pour le pauvre petiot que je vais en Sibérie, dit-il. Je n'ai pas tué, mais il faut que j'aille en Sibérie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce petiot? Je n'y comprends rien. Je me suis mise à pleurer, car il parle si bien. Il m'a embrassé, il a fait sur moi le signe de la croix. Non, je ne puis dire, peut-être... Rakitin le voit souvent, mais cela ne vient pas de Rakitin. Non, 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 ce n'est pas de Rakitin. C'est Ivan qui le tourmente, voilà. Elle s'interrompit brusquement. Alyosha fit un mouvement de surprise. Comment Ivan le voit donc? Je n'en savais rien. Eh bien, vois-tu comme je suis, je n'aurais pas dû te le dire. Enfin... Alyosha, ne le répète pas, puisque j'ai commencé, je te dirai toute la vérité. Eh bien oui, Ivan est allé chez lui deux fois. La première, aussitôt après son retour de Moscou. La seconde, il y a 8 jours. Et Mitya m'a défendu de le dire à personne, car Ivan venait en cachette. Cette nouvelle impressionna vite profondément Alyosha. Ivan ne m'a pas parlé de l'affaire de Mitya. En général, il m'a très peu parlé. Il paraissait même mécontent de me voir. Du reste, depuis 3 semaines, je ne vais plus chez lui. Si en effet il est allé chez Mitya, il y a 8 jours, c'est qu'alors un changement s'est produit en lui. Oui, un changement, dit vivement Glushenka. Ils ont un secret. C'est Mitya lui-même qui me l'a dit, un secret qui le tourmente, lui qui avant était presque gai. Est-il vrai qu'il t'ait défendu de me parler d'Ivan? Oui, à toi surtout, je ne devais rien dire. Il a peur de toi. Alyosha, mon cher, va donc, cherche à savoir ce qu'est le secret et viens me l'apprendre. C'est pour cela que je t'ai appelé aujourd'hui. Tu crois donc que ce secret te concerne? Mais dans ce cas, il ne t'en aurait pas parlé. Je ne sais, peut-être n'ose-t-il pas me le dire. Il veut me prévenir, peut-être. Mais toi-même, qu'en penses-tu? Oh, je pense que tout est fini pour moi. Ils sont 3 contre moi. Car il faut compter Katia. Il veut m'abandonner, voilà tout ce secret. Il m'a dit qu'Ivan est amoureux de Katia et que c'est pour cela qu'il va si souvent chez elle. Est-ce vrai? Parle-moi en conscience. Non, je ne te mentirai pas. Ivan n'aime pas Katerina Ivanovna. Ah, je le pensais, il ment. C'est un effronté. Il a inventé cette histoire de jalousie que pour pouvoir m'accuser ensuite. Mais c'est un imbécile, il ne s'est même pas trompé. Il est d'une nature trop franche. Il me le paiera, Attends, Katia aussi aura de mes nouvelles. Au moment du jugement, je parlerai, je dirai tout. Et elle se mit à pleurer. Grushenka, je puis t'affirmer qu'il t'aime plus que tout au monde, crois-moi, je le sais. Je n'irai pas lui demander son secret. Mais s'il me le dit, je t'avertirai que je t'ai promis de t'en faire part. Il me semble que ce secret ne doit pas concerner Katerina Ivanovna. J'en suis même sûr. Allons, au revoir. Alyosha lui serra la main. Grushenka pleurait toujours. Il lui était pénible de la laisser ainsi, mais il ne pouvait rester davantage auprès d'elle. Il était déjà tard quand Alyosha sonna à la porte de la prison. La nuit allait tomber. Mais Alyosha savait qu'on le laisserait entrer, car tout le monde avait de la sympathie pour lui. Les derniers des geôliers avaient plaisir à le voir. Mitya recevait ses visiteurs dans le parloir. En entrant, Alyosha se heurta contre Rakitine qui sortait. Alyosha n'aimait pas se rencontrer avec Rakitine et ne lui parlait presque pas. Rakitine fronça les sourcils et regarda d'un autre côté, semblant très occupé à boutonner son paletot, puis il se mit à chercher son parapluie. « Ah, pourvu que je n'oublie rien !» dit-il pour dire quelque chose. Surtout, n'oublie pas de laisser ce qui ne t'appartient pas, dit Mitya en riant. Rakitine s'enflamma aussitôt. Bon, comment cela la race des Karamazov, non pas Rakitine. Mais qu'est-ce qui te prend, je plaisantais. Mais ils sont tous ainsi, dit-il à Alyosha quand Rakitine fut sorti. Il était tout joyeux, voilà qu'il se fâche. Il ne t'a même pas salué. Êtes-vous brouillé? Oh, pourquoi es-tu venu si tard? J'étais si impatient de te voir. Mais n'importe. Mais pourquoi vient-il si souvent chez toi? Vous intime? Avec inquiétude? Non, je ne peux pas dire cela. C'est un cochon. Il me prend pour un misérable. Il ne comprend pas les plaisanteries. Ils sont tous ainsi, mais il est intelligent. Eh bien, Alexei, je suis perdu déjà ? Il s'assit sur un banc et montra une place auprès de lui à Alyosha. Oui, c'est demain le jugement. Mais n'as-tu donc aucune espérance, frère ? De quoi parles-tu ? Ah oui, du jugement, oh diable ! Mais c'est une sottise. Parlons du principal. Oui, c'est demain le jugement. Mais je n'y pensais pas en disant que je suis perdu. Ce n'est pas pour ma tête que je crains, c'est pour ce qui est dans ma tête. Mais pourquoi me regardes-tu d'un air ironique? Mais de quoi parles-tu, Mitya? Des idées, l'éthique. Sais-tu ce que c'est que l'éthique? L'éthique? Oui, une science. Oui, je connais seulement. Je t'avoue que je ne saurais dire précisément ce que c'est. Eh bien, Rakitine le sait, lui, il est très savant. Que le diable l'emporte. Mais laissons l'éthique, c'est moi qui suis perdu, moi, entends-tu, homme de Dieu. Je t'aime plus que tous les autres, mon cœur bat quand je te vois. Qu'est-ce que c'est que Karl Bernard? Karl Bernard? Non, non, pas Karl, Claude, un chimiste, je crois. Bon, un savant quelconque, je ne sais rien de plus sur lui. Oh, diable, je n'en sais pas plus que toi. C'est quelques misérables, probablement. Ils sont tous des misérables. Rakitine fera son chemin, il passerait par le trou d'une serrure. C'est un Bernard, oh, c'est Bernard, y en a-t-il de nos jours? Mais qu'as-tu donc? Ben, il veut écrire un article à propos de moi et commencer ainsi sa renommée. C'est dans ce but qu'il vient me voir. Un article à thèse. Il ne pouvait pas ne pas tuer, c'est le milieu qui l'y poussait. Et ainsi de suite. Il y aura une pointe de socialisme dans son affaire. Mais au diable, ça m'est égal. Il n'aime pas Ivan, il le hait. Et toi non plus, il ne t'aime guère. Moi, pff, je le supporte, il a de l'esprit. Je lui disais tout à l'heure, les Karamazov ne sont pas des misérables, ce sont des philosophes. Et tous les vrais Russes sont des philosophes. Et toi, tu es un savant, mais tu n'es pas un philosophe, tu es un smerdé. Il a ri méchamment, il est vrai. Et moi, je lui ai dit, de opinionibus non est disputandum. Tu vois, je suis classique aussi, ajouta Mitya en éclatant de rire. Mais pourquoi es-tu perdu, comme tu disais tout à l'heure? Pourquoi je suis perdu? Oh, en réalité, si on prend l'ensemble, je plains Dieu, voilà pourquoi. Comment tu plains Dieu? Ben imagine-toi, tout cela est dans les nerfs, dans la tête, dans l'esprit. Il y a des fibres, et aussitôt qu'elles vibrent, c'est-à-dire, vois-tu, je regarde, pour ainsi dire, quelque chose, aussitôt les fibres vibrent, et dès qu'elles vibrent, se forme une image, ou du moins au bout d'un moment, d'une seconde. C'est-à-dire, pas un moment que le diable emporte, ce moment, mais l'image, c'est-à-dire l'objet, ou bien l'événement. Or, que diable, et voilà comment s'effectue la réflexion, et puis la pensée s'ensuit. Car ce sont les fibres qui vibrent, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme, la création de l'homme à sa ressemblance. Quelle bêtise! C'est Rakitine qui m'expliquait cela hier. Ça m'a brûlé, vois-tu. C'est une belle chose que la science, Alyosha. N'empêche, je plains Dieu. C'est déjà bien, dit Alyosha. Que je plaigne Dieu? Oh, la chimie, frère, la chimie! Il n'y a pas à dire votre révérence. Écartez-vous un peu, c'est la chimie qui passe. Il n'aime pas Dieu, Rakitine. Oh non, il ne l'aime pas. C'est son endroit vulnérable. D'ailleurs, tous ceux qui sont comme lui, mais il le cache, il mente. Eh bien, lui demandai-je, que deviendra l'homme sans Dieu et sans immortalité? Tout est permis alors, tout est permis. Mais ne le savais-tu pas, m'a-t-il répondu en riant. Pour un homme intelligent, tout est permis. Il sait toujours se tirer d'affaire. Mais toi, tu as tué, tu t'es laissé prendre, et maintenant, tu pourris sur la paille. C'est lui qui me parle ainsi, le cochon. Autrefois, j'aurais mis à la porte un tel homme. Maintenant, je l'écoute. D'ailleurs, il a dit des choses spirituelles, et il écrit bien. Mitya se mit à marcher d'un air soucieux à travers la chambre. Frère, je ne puis rester longtemps, dit Alyosha après un silence. « Demain est un jour terrible pour moi. L'arrêt de Dieu sur toi s'accomplira. Je m'étonne qu'au lieu de parler de cela, tu bavardes à propos de choses insignifiantes. Non, ne t'étonne pas. Préfères-tu que nous parlions de l'assassin, de ce chien ignoble? Nous n'avons que trop parlé. Qu'on me laisse tranquille. Assez causé du fils de Smerdiachnoïa. Dieu fera justice, tu verras. » Il s'approcha d'Alyosha et l'embrassa avec émotion. Rakitine ne comprendrait pas cela, mais tu comprendras tout, toi. C'est pour cela que j'étais si impatient de te voir. Il y a longtemps que j'aurais voulu te dire bien des choses entre ces quatre horribles murs. J'ai attendu le dernier jour, il faut que je m'épanche en toi. Frère, depuis 2 mois, un homme nouveau est né dans mon âme. C'est-à-dire, il était déjà en moi, mais il a fallu un coup de foudre pour l'éveiller. Terrible! Je taperai du marteau dans les carrières pendant 20 ans. Et puis qu'est-ce que ça me fait? Je ne crains qu'une chose, c'est que l'homme nouveau qui vient de s'éveiller n'aille se rendormir. Là-bas aussi, dans les carrières, sous un habit de forçat et d'assassin, on peut trouver un cœur d'homme. Là-bas aussi, on peut vivre, aimer et souffrir. On peut ranimer le cœur engourdi d'un forçat, le soigner, sauver dans ses repères une grande âme purifiée par la conscience de la douleur, en faire un héros. Il y en a des centaines, vois-tu, qui souffrent pour nos fautes, car nous sommes coupables de leurs crimes. Pourquoi, en un tel moment, ai-je eu dans mon rêve la vision de ce petit haut ? C'était une prophétie. C'est pour lui que je partirai. Car nous sommes tous coupables pour tous les vivants, tous sont des petits hauts. Il faut que quelqu'un se dévoue pour tous. Je n'ai pas tué mon père et pourtant j'accepte le châtiment. Ses pensées émanent pour moi de ses murs. Nous ressusciterons à la joie de par notre douleur même, à cette joie sans laquelle l'homme ne peut vivre, à cette joie que Dieu donne comme un privilège. Le bien est proscrit du monde, mais nous cacherons Dieu sous la terre, nous lui ferons un asile souterrain, et nous, les hommes du souterrain, nous chanterons du sein de la terre l'hymne tragique au Dieu de la joie, et vive la joie de Dieu. Mitya était pâle, ses lèvres tremblaient, les larmes jaillissaient de ses yeux, il étouffait. Non, la vie est pleine, la vie est belle, sous la terre aussi. Tu ne croirais pas, Alexeï, à quel point je tiens à la vie, à quel point cette avidité de vivre s'est emparée de moi, ici, entre ces murs dénudés. Qu'est-ce que la souffrance ? Je ne la crains pas, quoiqu'elle puisse être inépuisable. Il me semble que j'ai tant de force en moi qu'il me serait facile de vaincre toutes les souffrances pourvu que je puisse sans cesse me dire « Je suis ». Je suis, si je souffre sous la main du bourreau, j'existe encore. Je ne vois pas le soleil, mais je sais qu'il brille. C'est déjà la vie, cela, toute la vie. Alyosha, mon chérubin, la philosophie me tue. Oh diable, le frère Ivan! Quoi, le frère Ivan? Interrompit Alyosha. Mitya ne l'entendit pas. Vas-tu, auparavant, j'avais pas tous ces doutes. Ils fermentaient en moi. C'est précisément pour leur échapper que je me grisais, que je m'engageais, que je me battais. C'était pour les faire taire, pour les anéantir. Le frère Ivan n'est pas comme Rakitin. Il cache ses pensées, c'est un sphinx, il se tait toujours. Dieu, l'idée seulement de Dieu me fait souffrir. Quelle est notre destinée s'il n'y a pas de Dieu? Et que faire si Rakitin a raison, si cette idée de Dieu n'est qu'une imagination de l'homme? Ce serait donc l'homme qui serait le maître de la terre. Très bien, mais sans l'idée de Dieu, comment l'homme restera-t-il vertueux? Le morveux, il affirme cela. Eh bien, pour moi, je n'en crois rien. La vie est impossible pour Rakitin. Toi, me disait-il aujourd'hui, occupe-toi de conquérir des droits nouveaux à l'homme et d'empêcher le prix de la viande de trop s'élever. Par là, tu te rapprocheras de l'humanité, tu lui témoigneras plus d'amour que par toute ta philosophie. Et toi, lui ai-je répondu, si Dieu n'existait pas, tu serais peut-être le premier, l'occasion échéant, à hausser le prix de la viande et à échanger un kopeck contre un rouble. Et en effet, qu'est-ce que la vertu? Pour moi, je m'en suis fait une idée, mais ce n'est pas celle des Chinois. C'est donc une chose relative. Ou peut-être n'est-elle pas relative? Terrible question. Tu ne riras pas hein, si je te dis qu'elle m'a empêché de dormir deux nuits durant. Je m'étonne qu'on puisse vivre sans y penser. Vanité. Ivan ne croit pas en Dieu. Il a une idée grande peut-être, mais il ne la dit pas. J'aurais voulu boire de l'eau de sa source, mais il ne parle pas. Une fois seulement, il me dit, quoi ? Oh, je lui disais, Alors tout est permis. Il fronça les sourcils. Fiodor Pavlovitch, notre père, me dit-il, était un cochon, mais il avait l'esprit droit. Voilà tout ce qu'il m'a dit. C'est pourtant mieux que Rakitin. Oui, dit amèrement Alyosha, quand l'as-tu vu? Nous en parlerons plus tard. Je t'ai pas encore parlé d'Ivan, je voulais te faire connaître. Je te dirai tout cela après le jugement. Oh, c'est une terrible chose. Tu me jugeras. Maintenant, il faut même pas en parler. Tu disais tout à l'heure, et demain, ben me croiras-tu? N'y pense pas. As-tu parlé à l'avocat? Oui, je lui ai tout dit. C'est une habile canaille de la capitale, un Bernard. Il ne me croit pas. Il est convaincu que je suis coupable. Alors pourquoi êtes-vous venu me défendre? Lui ai-je demandé. Je m'en moque. Et voilà, le médecin qui voudrait me faire passer pour fou. Je ne le permettrai pas. C'est Katerina Ivanovna qui a voulu faire jusqu'au bout tout son devoir. Baba, et Grigori s'entête à sa déposition. Un honnête imbécile. Il y a beaucoup de gens honnêtes par imbécilité. Ça, c'est du Rakitin. Mais Grouchka, pourquoi souffre-t-elle tant? Elle était là tout à l'heure. Oui, elle me l'a dit, tu l'as profondément chagrinée. Je le sais, que le diable emporte mon caractère. Je lui ai fait une scène de jalousie, je ne lui ai pas demandé pardon. Pourquoi? Mitya se mit à rire gaiement. Que Dieu te garde, mon cher gamin, de jamais demander à une femme aimée pardon de tes torts. Surtout à une femme aimée, et quel que puisse être tes torts. Mais qui diable sait ce qu'il y a dans un cœur de femme? Mais je les connais un peu, les femmes. Essaye donc d'avouer tes fautes, et tu verras quelle grêle de reproches. Jamais un pardon franc, simple, elle t'abaissera, t'avilira, te reprochera même des torts que tu n'auras pas eus, et te pardonnera seulement ensuite. Encore, je ne parle ici que de très bonnes femmes, tant il y a de férocité en ces anges sans lesquels nous ne pourrions vivre. Franchement, tout homme convenable doit être sous la pantoufle d'une femme, c'est ma conviction, du moins mon sentiment. L'homme doit être généreux, cela ne le diminue pas, même s'il est un héros, même s'il est un César. Mais demander pardon... Rappelle-toi que c'est ton frère Mitya, perdu par les femmes, qui te donne cet enseignement. Je préfère me justifier auprès de Grouchka sans lui demander pardon. Je la vénère, Alexei, mais elle ne le voit pas. Ce n'est pas assez pour elle de tout mon amour. Elle me rend douloureux, cet amour. Auparavant, je souffrais de ces changements, de ces détours. Mais maintenant, j'ai pris toute son âme dans mon âme et je suis devenu un homme. Nous laissera-t-on ensemble? Ouf. Si on nous sépare, je mourrai de jalousie. Que t'a-t-elle dit de moi? Alyosha lui raconta sa conversation avec Grushchenka. Alors, elle n'est pas fâchée que je sois jaloux. C'est bien d'une femme. J'ai moi-même le cœur jaloux. Oh, j'aime cela. Nous aurons des querelles, mais je l'aimerai toujours. Marie-t-on les forçats? C'est une question. Ce qu'il y a de certain, c'est que je ne pourrais vivre sans elle. Alors elle croit à un secret entre nous trois, en y comptant Katia? Non, Grouchka, ce n'est pas un secret, tu te trompes. Alyosha, soit... Je vais te dévoiler ce secret. Mitya regarda de tous côtés, s'approcha d'Alyosha et se mit à lui parler tout bas, quoique personne ne pût l'entendre, le vieux geôlier dormant dans un coin et le factionnaire étant trop éloigné. Je veux avoir ton avis. Yvan nous est supérieur, mais tu es meilleur. Et qui sait si tu n'es pas supérieur à Yvan ? C'est un cas de conscience que je ne puis décider sans ton conseil. Pour le moment, toutefois, ne me donne pas ton opinion avant que le jugement soit prononcé. Écoute, Yvan me conseille de m'enfuir. Je mets les détails, tout est prêt, tout peut s'arranger. L'Amérique avec Grouchkaïa. Yvan dit qu'on ne marie pas les forçats. Alors vivre sans Grouchka, je me briserai la tête contre un mur. Mais de l'autre côté, la conscience. Je me dérobe au châtiment, je me détourne de la voie de purification qui m'était ouverte. Yvan dit qu'en Amérique, avec de la bonne volonté, on peut faire plus de bien que dans les carrières. Et notre hymne souterrain, l'Amérique, qu'est-ce que c'est? Quelle vanité! Yvan se moque de mon hymne. Ne parle pas, tu as déjà ton opinion faite, mais grâce. Attends le jugement. Songe que je ne puis vivre sans Grouchka. Alyosha était très ému. « Dis-moi, demanda-t-il, est-ce qu'Ivan insiste beaucoup? Qui a eu le premier cette idée? Oh, c'est lui. Il insiste, il ne conseille pas, il ordonne. Il me propose 10 000 roubles pour la fuite et 10 000 pour l'Amérique. Il t'a recommandé de ne rien dire. Particulièrement... Ne lui dis pas que je t'ai fait cette confidence. Il craint que tu ne sois la voix de la conscience, mais ma conscience vivante. Tu ne crois donc pas te justifier demain ? Mutia secoua la tête négativement. Alyosha, dit-il tout à coup, il est temps que tu partes. Allez, embrasse-moi. Fais le signe de la croix sur moi pour que je puisse supporter mes souffrances demain. Ils s'embrassèrent. Et Yvan qui me conseille de m'enfuir. Et pourtant il croit que j'ai tué. Le lui as-tu demandé ? Non, oh, je voulais le lui demander, mais je n'en ai pas eu la force. J'ai vu cela, sa manière de me regarder. Allons, adieu. Ils s'embrassèrent de nouveau. Alyosha allait sortir, quand Mitya l'arrêta de nouveau et le saisit par les épaules. Son visage était d'une pâleur effrayante. Ses lèvres se contractaient et son regard semblait percer Alyosha. Comme devant Dieu, Alyosha, dis-moi la vérité. Crois-tu que j'ai tué? La vérité tout entière. Alyosha se sentit défaillir. Voyons, qu'as-tu? Murmura-t-il. La vérité tout entière, ne mens pas. Mais je n'ai pas cru un seul instant que tu sois un assassin. Dit Alyosha d'une voix tremblante. Il leva la main comme s'il prenait Dieu à témoin. Merci, dit Mitya en soupirant comme s'il revenait d'un évanouissement. Tu m'as sauvé. Croiras-tu que je n'osais pas encore te faire cette question, à toi, à toi? Va maintenant, va-t'en, que Dieu te bénisse, va-t'en et aime Yvan. Alyosha sortit tout en larmes. La méfiance de Mitya révélait un désespoir si profond. Une pitié infinie envahissait Alyosha. Aime Yvan. Alyosha allait précisément chez Yvan. Yvan l'inquiétait autant que Mitya. Et à cette heure, plus que jamais. Chemin faisant, il remarqua de la lumière aux fenêtres de Katerina Ivanovna. Il s'arrêta et se décida à entrer. Il n'avait pas vu Katia depuis plus d'une semaine. Puis il pensait qu'Ivan, à la veille d'un tel jour, serait peut-être chez elle. Dans l'escalier, faiblement éclairé par une lanterne chinoise, il aperçut un homme qui descendait et en qui il reconnut son frère. « Ah, ce n'est que toi !» dit sèchement Ivan Fiodorovitch. « Adieu, tu vas chez elle ?»« Oui. » « Oh, je te conseille pas, elle est agitée, tu la troubleras. »« Non !» cria une voix en haut de l'escalier. « Alexei Fiodorovitch, vous venez de chez lui. Vous a-t-il envoyé auprès de moi ? Entrez donc, et vous aussi, Ivan Fiodorovitch, remontez, je le veux, entendez-vous ?» La voix de Katia était si impérieuse qu'Ivan, après un instant d'hésitation, se décida à monter avec Alyosha. « Permettez-moi de garder mon paletot, » dit Ivan en entrant dans le salon. « Je ne resterai qu'une minute. »« Asseyez-vous, Alexei Fiodorovitch, » dit Katerina Ivanovna. Elle parut à Alyosha plus belle que jamais. « Que vous a-t-il dit de me transmettre ?»« Ceci seulement, » dit Alyosha en la regardant en face. Il vous prie de vous épargner la peine de dire ce qui s'est passé entre vous au jour de votre première rencontre. Oh mon salut jusqu'à terre, l'argent, dit-elle avec amertume. Est-ce pour lui ou pour moi qu'il craint? Parlez donc, Alexei Fiodorovitch. Oh, pour vous et pour lui. C'est cela, dit-elle méchamment. Elle rougit. Vous ne me connaissez pas encore, Alexei Fiodorovitch. D'ailleurs, je ne me connais pas non plus. Peut-être me maudirez-vous demain après ma déposition. Vous parlerez avec loyauté, dit Alyosha, c'est tout ce qu'il faut. La loyauté n'est pas toujours féminine, dit-elle en grinçant des dents. Il y a une heure, je pensais encore qu'il me serait odieux de m'occuper de ce misérable, cette vermine. Cependant, il est encore un homme pour moi. Est-ce bien un assassin? Est-ce bien lui qui a tué? Demanda-t-elle tout à coup à Ivan Fiodorovitch. Je suis allé chez Smerdiakov. C'est toi qui m'as convaincu que Dmitri est un parricide. C'est toi qui m'as convaincu. Ivan eut un sourire contraint. Alyosha tressaillit à ce toit. « Assez !» interrompit Ivan. « Je m'en vais, à demain !» Il sortit. Katerina Ivanovna saisit les mains d'Alyosha. « Suivez-le, rejoignez-le, ne le laissez pas seul un instant, il est fou. Ne savez-vous donc pas qu'il est devenu fou ? Le médecin me l'a dit, allez, courez !» Alyosha se précipita dans l'escalier. Ivan n'avait pas fait 50 pas. « Que veux-tu ? » dit-il en se retournant vers Alyosha. « Elle t'a dit de me suivre, que je suis fou. »« Je le sais d'avance, » ajouta-t-il avec emportement. « Elle se trompe sans doute, mais à coup sûr, tu es malade, ton visage est défait, Ivan. » Ivan marchait toujours, Alyosha le suivait. Sais-tu, Alexei Fiodorovitch, comment on devient fou ? Reprit Ivan avec douceur cette fois. Non, je ne sais pas. Il doit y avoir différents genres de folie. Peut-on s'apercevoir soi-même qu'on devient fou ? Je ne pense pas. Bien, si tu as quelque chose à me dire, changeons de sujet, de conversation, dit Ivan tout à coup. Je crois qu'elle va prier pendant toute la nuit la Vierge pour savoir comment elle devra se conduire demain, reprit-il d'un ton méchant. Tu parles de Katerina Ivanovna? Oui, elle sait encore si elle doit sauver ou perdre, Atia. Elle me prend pour une bonne d'enfant et veut que je la berce. Mais Katerina Ivanovna t'aime, frère. C'est possible, mais moi je ne l'aime pas. Elle souffre. Pourquoi alors lui dis-tu, parfois, des paroles qui lui donnent de l'espoir? Mais je ne puis faire ce qu'il faudrait, couper court et lui parler franchement. Je veux attendre qu'on ait fait justice de l'assassin. Si je me séparais d'elle maintenant, elle perdrait par vengeance ce misérable dès demain, car elle le hait. Et il sait bien lui-même qu'elle le hait. Tout autour de nous n'est que mensonge. Tant qu'elle espère, elle ne perdra pas cette bête féroce, sachant que je désire son salut. Oh, quand donc cette maudite sentence sera-t-elle prononcée? Les mots « assassin » et « bête féroce » avaient douloureusement blessé le cœur d'Alyosha. Mais comment pourrait-elle perdre notre Mitya? Tu ne le sais pas encore? Mets entre les mains un document authentique, écrit par Mitya, qui prouve qu'il a tué Fyodor Pavlovitch. Bon, c'est impossible, s'écria Alyosha. Comment impossible? Je l'ai lu moi-même. Mais il est impossible qu'un pareil document existe, répéta Alyosha avec fougue. Il ne peut pas exister parce que ce n'est pas Mitya qui a tué le père, ce n'est pas lui. Ivan Fyodorovitch s'arrêta. Qui donc aurait tué, d'après vous? Dit-il froidement. Il y avait de la hauteur dans sa voix. Ben, tu sais toi-même qui? Dit doucement et d'un ton pénétrant Alyosha. Qui? Cette fable sur cet idiot épileptique Smerdiakov. Alyosha tremblait. Tu sais toi-même qui? Mais qui donc, qui? S'écria Ivan avec rage. Il ne se possédait plus. Je ne sais qu'une chose, dit à voix basse Alyosha, que ce n'est pas toi qui as tué le père. Pas moi, que veux-tu dire? Ce n'est pas toi qui as tué, pas toi, répéta avec fermeté Alyosha. Une demi-minute de silence. Mais je le sais bien que ce n'est pas moi. As-tu le délire? Il regarda attentivement Alyosha. Ils étaient en ce moment dans la lumière d'un réverbère. Non, Ivan, tu sais bien que tu disais toi-même que c'est toi qui es l'assassin. Quand l'ai-je dit? Oh, j'étais à Moscou. Quand l'ai-je dit? Répétait Ivan avec trouble. Tu l'as dit toi-même, à toi-même, quand tu étais seul. Pendant ces deux terribles mois, dit Alyosha doucement, et comme s'il parlait malgré lui, tu t'accusais, tu disais que l'assassin n'était autre que toi. Mais tu te trompes, ce n'est pas toi, m'entends-tu, ce n'est pas toi. Dieu m'envoie te le dire. Ils se turent tous deux pendant une longue minute. Ils se regardaient en face, très pâles. Tout à coup, Ivan tressaillit et saisit fortement Alyosha par l'épaule. Tu es allé chez moi? Dit Ivan à voix basse et tout le visage contracté. Tu étais chez moi quand il est venu? Avoue-le, tu l'as vu, tu l'as vu. Mais de qui parles-tu? De Mitya? Non! Laisse-moi donc avec cette bête féroce, hurla Ivan. Mais tu ne sais donc pas qu'il vient chez moi? L'as-tu vu? Parle! Mais qui il? Je ne sais pas ce que tu veux dire, fit Alyosha effrayé. Mais tu le sais, autrement comment? Il est impossible que tu ne le saches pas. Il s'arrêta, resta comme absorbé dans sa pensée. Un sourire étrange crispait ses lèvres. Frère, dit d'une voix tremblante Alyosha, je te le dis parce que je sais que tu me croiras, et je te le dis pour toute la vie, ce n'est pas toi. Entends-tu, pour toute la vie? Et c'est Dieu qui m'envoie te le dire, du 7 heures, de cette heure-là, elle nous séparait à jamais. Mais Ivan Fyodorovitch était redevenu maître de lui. Alexei Fyodorovitch, dit-il avec un sourire froid, je n'aime ni les prophètes ni les épileptiques, surtout les envoyés de Dieu, vous le savez trop bien. Dès ce moment, toutes nos relations sont rompues et je crois pour toujours. Je vous prie de me quitter tout de suite. Surtout prenez bien garde de ne pas venir aujourd'hui chez moi, entendez-vous? Il se détourna et d'un pas ferme s'en alla droit devant lui. « Frère, lui cria Alyosha, si t'arrive quelque chose aujourd'hui, pense à moi !» Ivan ne répondit pas. Alyosha resta quelques instants près du réverbère, jusqu'à ce qu'Ivan eût disparu dans l'obscurité, puis reprit son chemin. Ni lui ni Ivan Fyodorovitch n'habitaient plus dans la maison de leur père. Alyosha avait loué une chambre meublée dans la maison d'un Melchanin. Ivan occupait une maisonnette dans un quartier excentrique. Depuis 2 mois, il s'était plu à rester seul, servi par une très vieille femme sourde. En s'approchant de sa porte, il prit le cordon de la sonnette, puis tout à coup le laissa. Il se sentait secoué d'un frisson de colère. Il se dirigea brusquement vers une maison située à 2 verstes de la sienne et où habitait Smerdiakov.